Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse qui donne vraiment le vertige.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Elle est tirée d'un essai de Mohamed Haïd Belhassen qui s'appelle « À l'aube de 2026, la guerre n'attend plus ».
Hein ?
Et l'auteur y dresse un tableau pour le moins inquiétant.
Mmh.
Imaginez un peu le début de l'année 2026. Le monde est secoué par deux annonces quasi simultanées. D'un côté, des frappes américaines au Venezuela, avec un objectif très précis, capturer le président.
Exactement.
Et de l'autre, des menaces directes d'intervention en Iran. Alors, notre idée ici, c'est de décortiquer un peu cette séquence.
Oui, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a autre chose derrière?
C'est ça la question. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle stratégie, une sorte de pression permanente où la menace devient un outil de gouvernance? C'est cette idée d'invasion annoncée qu'on va explorer.
Et c'est une idée qui change complètement la donne. On n'est plus dans le schéma classique de la diplomatie, puis, en cas d'échec, la guerre. On entre dans une zone grise bien plus dangereuse.
Commençons donc par le Venezuela, parce que c'est vraiment là que tout s'emballe. Début 2026, une rumeur, enfin une nouvelle explosive circule.
Celle de Donald Trump en pleine campagne.
Oui. Il aurait annoncé depuis son avion le lancement de frappes et affirmé que le président Maduro serait déjà, je cite, « sous la garde des États-Unis ».
Une déclaration faite comme ça devant des supporters?
Et bien sûr, démentie tout de suite par Caracas.
Et c'est là que ça devient fascinant. Absolument. Parce que le point central, ce n'est même plus de savoir si l'info est vraie ou fausse. C'est l'impact de l'annonce en elle-même.
Qu'elle soit vraie ou pas, elle produit un effet.
Exactement. Si c'était avéré, ce serait une rupture historique, la plus spectaculaire depuis l'invasion du Panama en 89. Une violation frontale de la souveraineté.
Clairement.
Mais même si c'est faux, si c'est un bluff, l'annonce crée un choc, un fait politique qui oblige tout le monde à réagir. Le récit devient l'arme principale. C'est la guerre de l'information à l'état pur.
Mais alors, pourquoi le Venezuela? L'auteur semble dire que ce n'est pas un hasard, que la cible est choisie pour sa vulnérabilité.
C'est exactement ce que l'analyse met en lumière. Le Venezuela est décrit comme une cible, disons, à faible risque. Le pays est isolé, son économie est à genoux.
Donc un adversaire qui peut difficilement riposter.
Voilà. Mais le message, lui, il dépasse largement Caracas. Il est envoyé à toutes les capitales que Washington considère comme des adversaires.
Le message étant...
Le message est clair. Aucun dirigeant n'est intouchable. C'est un retour à une politique de la puissance brute, où le droit international pèse, disons, un peu moins lourd. Et quasiment au même moment, on l'a dit, la pression monte sur l'Iran. On a vraiment l'impression d'une stratégie sur deux fronts.
La simultanéité est trop évidente pour être une coïncidence. En Iran, le contexte est différent, mais la mécanique semble identique.
L'économie iranienne est étranglée.
Par les sanctions.
Oui. L'inflation sur les produits de base dépasse les 40%. La colère populaire gronde. Et c'est à ce moment précis que les États-Unis menacent d'intervenir militairement si le régime réprime les manifestations.
Attendez, mais c'est un piège. En faisant ça, est-ce qu'il ne donne pas au régime iranien le prétexte parfait pour justifier une répression létale?
C'est un piège redoutable. C'est un argument en or pour le régime. Il peut immédiatement accuser les manifestants d'être des agents de l'étranger.
Des marionnettes de l'ONU américain.
C'est ça. Et ça verrouille toute possibilité de dialogue interne. Ça pousse à la confrontation.
Et si on met les deux situations côte à côte?
On voit se dessiner une sorte de mode d'emploi.
Un véritable manuel d'intervention 2.0. D'abord, déstabiliser l'économie pour faire monter la pression sociale. Et ensuite, utiliser cette agitation comme levier pour brandir une menace militaire. Ce qui nous amène à la question des institutions internationales. Qu'est-ce que ça signifie pour un organisme comme l'ONU? J'imagine qu'il se retrouve complètement impuissant.
Totalement. L'essai parle, et le mot est fort, d'un effondrement du multilatéralisme. En clair, les institutions créées après 1945, pour éviter ça, sont paralysées.
Donc le Venezuela peut appeler à une réunion d'urgence, mais ça ne sert à rien.
Ça reste un geste symbolique. Quand l'agresseur présumé est un membre permanent avec un droit de veto, comme les États-Unis, tout le mécanisme est bloqué d'avance. L'ONU devient une chambre d'enregistrement des protestations, une tribune, mais sans aucun pouvoir.
Mais cette idée de souveraineté conditionnelle, où un État n'est souverain que si sa politique ne dérange pas, c'est vraiment nouveau? On a l'impression que ça a toujours un peu existé dans la sphère d'influence américaine?
C'est une excellente question. Vous avez raison, la pratique n'est pas nouvelle. La différence que l'auteur souligne, c'est pas tant le fond que la forme.
La méthode.
La méthode, oui. C'est une différence de nature. pas seulement de degrés. Avant, il fallait du justification complexe, les armes de destruction massive, etc. Il y avait un effort, même hypocrite, pour habiller l'action avec le droit international.
D'accord.
Ce qui est décrit pour 2026, c'est une doctrine beaucoup plus désinvolte, presque impulsive. La menace est annoncée sans même chercher un prétexte élaboré. Et pour contourner l'ONU, on utilise les coalitions ad hoc.
Comme en Libye.
Exactement. Quelques pays alliés pour donner un vernis de légitimité à une action qui n'en a en réalité aucune.
Ce qui m'interpelle le plus dans tout ça, c'est ce concept d'invasion annoncée. Normalement, une opération militaire, ça se prépare en secret. Pourquoi l'annoncer ?
Parce que l'arme principale n'est plus militaire, elle est psychologique.
Ah oui.
Le but n'est pas tant de vaincre l'armée adverse sur le terrain que de provoquer l'effondrement du régime de l'intérieur, avant même que le premier soldat n'arrive. C'est une stratégie de choc.
On paralyse l'adversaire ?
On paralyse l'adversaire, on sème la panique, on pousse ses soutiens à la défection et on obtient une capitulation sans combattre.
Donc si je comprends bien, la dissuasion classique, c'est « ne fais pas ça, sinon je te frappe ». Et là, ce serait plutôt « je vais te frapper de toute façon, alors rends-toi maintenant pour éviter d'avoir mal ».
C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur le renversement de la logique. C'est une sorte de dissuasion inversée. La communication devient l'arme numéro un, l'action militaire n'est que sa concrétisation potentielle.
Et l'auteur lit ça directement au style de Donald Trump ?
Bien sûr, l'imprévisibilité devient un système. La politique étrangère ne serait plus le fruit d'un processus lent réfléchi, mais pourrait être lancée par une simple déclaration impulsive.
Dans un meeting ?
Oui. Créant a fait accompli que tout l'appareil d'État est ensuite forcé de gérer. L'idée, c'est de maintenir l'adversaire dans un déséquilibre permanent.
D'accord, mais est-ce que c'est une doctrine officielle, formalisée, ou juste une série d'improvisations ?
L'analyse est prudente sur ce point. Elle parle plus d'une pratique qui s'installe, la pratique d'un conflit latent permanent.
Un conflit latent permanent ?
Oui, c'est un état intermédiaire, un entre-deux où l'on n'est ni vraiment en paix, ni officiellement en guerre. C'est un état de pression constante, fait de menaces, de sanctions. La frontière s'estompe.
Comment réagissent les autres capitales ? Pékin, Moscou, ou même en Europe ?
L'essai dresse une carte des réactions qui est très révélatrice. D'abord, en Amérique latine. Là, c'est la division totale.
J'imagine.
D'un côté, une indignation de principe du Mexique ou de la Bolivie qui y verrait le retour des pires heures de l'interventionnisme. De l'autre, des pays comme le Brésil ou l'Argentine seraient beaucoup plus prudents.
Soucieux de leur relation avec Washington.
Voilà, ils appelleraient au dialogue, mais sans condamner fermement.
Et au Moyen-Orient, la menace sur l'Iran doit mettre tout le monde sur les dents.
C'est ce que l'auteur appelle la peur de la contagion. Les monarchies du Golfe, rivales de l'Iran, soutiendraient en coulisses l'action américaine. Mais publiquement,
elles appelleraient à la stabilité.
À la stabilité, oui, parce que leur plus grande peur, c'est qu'un conflit ouvert à leurs portes déstabilise toute la région et, par ricochet, leur propre régime. Israël, de son côté, serait le soutien le plus ferme, bien sûr.
Et puis, il y a les autres poids lourds, la Chine et la Russie. Pour eux, c'est un véritable test, non ?
Absolument. Pour Pékin et Moscou, c'est le test grandeur nature de l'ordre multipolaire qu'ils appellent de leur vœu. Leur réaction est assez prévisible.
Condamnation, veto à l'ONU...
Condamnation véhémente, veto et un soutien accru à Caracas et Téhéran. Mais sans aller probablement jusqu'à la confrontation directe. Leur objectif est stratégique. Se positionner en défenseur du droit international face à l'unilatéralisme américain. C'est une occasion en or pour eux.
Et au milieu de tout ça, il y a l'Europe, toujours un peu prise entre deux feux.
Elle est prise dans ce que l'essai nomme le dilemme atlantiste. Une position terriblement inconfortable.
Tiraillée entre son alliance avec les États-Unis et son attachement au droit international.
C'est tout à fait ça. D'un côté l'OTAN, de l'autre, le cœur de son projet politique. Donc on peut s'attendre à des déclarations alambiquées. Cherchant à ne fâcher personne, appelant à la retenue de toutes les parties.
Ce qui, au final, ne ferait que souligner son impuissance.
Exactement.
Alors, si cette tendance se confirme, quel monde se dessine pour nous à l'horizon 2030 ? Le tableau brossé par l'essai a l'air quand même assez sombre.
Il esquisse trois risques majeurs. Le premier, c'est le risque de contagion dont on parlait. Le précédent vénézuélien, s'il reste sans réponse forte, pourrait créer un dangereux appel d'air.
C'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Si une puissance peut le faire en toute impunité, qu'est-ce qui empêcherait les autres de faire pareil ?
Exactement. Le deuxième risque, c'est la normalisation de l'exception militaire. Si menacer d'envahir son voisin redevient un outil banal, alors la force redevient le droit.
Et le droit international ne protège plus ?
Non. La seule protection, c'est sa propre capacité militaire. Et ça, ça déclencherait une nouvelle course mondiale aux armements, au détriment de tout le reste. L'éducation, la santé, le climat.
Et le troisième risque est peut-être le plus insidieux, car il ne concerne pas que les États, mais l'intérieur même de nos sociétés.
C'est sans doute le plus grand danger. L'auteur parle d'un étau qui se resserre sur les sociétés civiles. Dans ce climat de menaces extérieures constantes, tout mouvement de protestation interne, voilà. Les régimes autoritaires, mais pas seulement, auront un prétexte idéal pour réprimer toute opposition au nom de la défense nationale. Au final, la première victime de cette nouvelle ère, ce serait la liberté des peuples.
Pour conclure, si on devait vraiment résumer l'idée centrale, c'est qu'on serait entré dans une ère de gouvernance par la menace. Un monde où la distinction entre guerre et paix s'efface.
C'est tout à fait ça. L'enjeu dépasse la question de savoir qui va gagner au Venezuela ou en Iran. La vraie question que soulève l'essai, c'est est-ce qu'un ordre mondial fondé sur la peur et l'imprévisibilité peut être stable ? L'histoire a tendance à suggérer que non.
En général, non. Ce sont souvent des interludes chaotiques. Et parfois, les préludes à des conflits beaucoup plus vastes. Le monde 2026, tel que décrit par l'auteur, semble donc avoir choisi la voie du risque maximum. L'alternative, suggère-t-il, c'est de reconstruire de nouvelles formes de dialogue sur les ruines du multilatéralisme.
Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir, une question qui s'adresse à tout le monde. Si le système multilatéral que nous avons connu est vraiment en ruine, par quoi les peuples peuvent-ils le remplacer pour éviter que la loi du plus fort ne devienne le seul langage des relations internationales?